Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Chapitre 3. Et aujourd'hui, on va étudier les quatre premiers versets de ce chapitre-là. On a déjà étudié Colossiens en mars, mais on va le regarder d'une autre optique. Alors, on va aller à mon titre aujourd'hui. Chercher en haut. Chercher en haut. Mon désir, c'est que vous puissiez répondre à l'appel de chercher en haut. Et j'aimerais ça aujourd'hui développer sur qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible nous dit qu'on doit chercher en haut ou chercher quelque chose qui vient d'en haut. Mon but, c'est qu'après le message, vous ayez un désir d'appliquer ce que vous allez apprendre concernant justement votre marche avec Dieu. Donc, premièrement, comment je vais m'y prendre pour faire mon message, premièrement, je vais dire, c'est où en haut? OK, c'est où en haut? Qu'est-ce que ça veut dire de chercher des choses d'en haut? Je vais essayer de différencier aussi les choses d'en bas de celles d'en haut. Puis finalement, on va essayer d'appliquer une vérité qu'on connaît, qui est très forte chez les chrétiens, c'est celle de ne pas mentir. Puis je vais faire passer cette vérité-là au travers de ce que j'ai compris, de qu'est-ce que ça voulait dire, de chercher les choses d'en haut. Seigneur Jésus, je te prie pour ce message afin que tu m'accompagnes, que ce qui est conforme à la vérité, à la réalité, puisse avoir un impact dans nos cœurs. Seigneur, on est venu pour chercher les choses d'en haut. Montre-nous comment chercher les choses d'en haut. Afin, Seigneur, qu'on y applique et notre corps, notre être, mais aussi notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va commencer avec le verset 1 de Colossiens 3 qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ici, il y a un « si ». Si. Paul, c'est sûr qu'il écrit à des gens qui sont chrétiens. C'est une petite église dans une petite maison. Il sait à qui il écrit. Puis c'est pas mal tous des chrétiens à ce qu'ils pensent. Mais il y a un « si » pareil, parce que si quelqu'un lirait ça puis il n'a pas fait l'expérience d'être ressuscité avec Christ, il ne peut pas chercher les choses d'en haut. Il peut les chercher, mais il ne peut pas les trouver nécessairement. Et donc, si, et il met une condition ici, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc c'est un privilège que de chercher les choses d'en haut puis de les trouver, c'est aussi un devoir ou une demande qui nous est faite. C'est une demande qui nous est faite, mais c'est aussi un privilège qui nous est fait. Et je veux qu'on réalise à quel point on a été favorisés, nous qui avons été ressuscités avec Christ. Tant que vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, ça se peut que le propriétaire qui vous a vendu cette maison-là ne vous laisse pas encore les clés pour accéder à tous ces appartements-là. Mais de la même manière, quelqu'un qui n'a pas encore fait la transaction pour être ressuscité avec Christ ne peut pas non plus accéder à tout ce qui vient avec les bénéfices que d'être ressuscité avec Jésus-Christ. OK? Donc, c'est un petit peu l'analogie du propriétaire. Tant que vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, vous ne pouvez pas chercher, vous pouvez les chercher, mais vous ne pouvez pas trouver les choses d'en haut. En tout cas, ce n'est pas une demande ou un devoir qui vous est imposé. C'est un privilège qui nous est offert après avoir expérimenté cette résurrection-là. Paul, dans Romains, il explique c'est quoi d'être ressuscité avec Christ. Dans Romains 6, au verset 3 à 4, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Et donc, Christ nous a pris avec lui. Il nous a amenés ou baptisés dans la mort ou immergés dans la mort et aussi dans sa résurrection. Et ce que ça fait, c'est qu'on peut marcher dans une vie nouvelle ou la Bible va appeler ça aussi une vie de résurrection. On partage la vie même de Jésus et à cause de ça, on peut marcher d'une façon nouvelle dans le monde. Et ça, c'est un privilège qui nous appartient à nous qui avons passé par ça. Donc, la mort, la résurrection puis l'ascension, qu'on dit, c'est quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté dans les cieux. C'est toutes des choses qui sont arrivées physiquement pour Jésus-Christ. Mais la mort, la résurrection et l'ascension pour le chrétien, c'est quelque chose qui lui est donné de façon spirituelle. On peut dire que potentiellement à la croix, c'est arrivé pour tous les hommes. Pour tous les hommes, Christ a fait quelque chose pour tous les hommes. Mais c'est lorsque j'ai cru en lui que cela est devenu actuel pour moi et que j'ai été mis au bénéfice d'avoir été enseveli, ressuscité avec lui. Et ça fait que je marche maintenant dans une vie de résurrection, la vie de Jésus-Christ qui est en moi. Donc, dans ce passage-là qu'on a vu aujourd'hui, si donc vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. En haut. C'est en contraste dans tout le passage avec en bas. Faites mourir les choses qui sont sur la terre, cherchez les choses qui sont en haut. Il y a vraiment un en haut puis un en bas dans la tête de l'auteur, Paul, quand il écrit ça. Et donc, les choses d'en haut peuvent être cherchées et trouvées par les croyants, les choses d'en bas sont cherchées et trouvées par tous les hommes. Et en tant que croyant, s'il nous demande de chercher les choses d'en haut, c'est parce qu'on peut être en train de chercher les choses d'en bas. Et donc, il y a un stimuli, un encouragement qui est dans ce verset-là. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas une obligation simplement, mais un privilège, que mes yeux se rouvrent pour voir ce qui est à moi en Jésus-Christ. Anno, A-N-O, avec une petite ligne sur le haut, ça veut dire « d'en haut ». C'est traduit par le mot « en haut » et ça veut dire « élevé », d'une place haute, une certaine dignité. Chercher les choses dignes, les choses qui sont réputées à être élevées, plus élevées que ce qu'on voit dans le monde. C'est la place où est localisé physiquement Jésus-Christ. Il dit « chercher les choses d'en haut » où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc l'endroit en haut, c'est la place où Christ est là physiquement. Puisqu'il est ressuscité dans un corps physique, il est à un endroit bien localisé. Cet endroit-là, la Bible me dit de chercher à cet endroit-là. OK? À cet endroit-là, on va continuer. C'est la place où moi, je suis allé chercher ce message-là. En tout cas, je l'ai cherché là. Est-ce que je l'ai trouvé? Ça, c'est une autre affaire. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui va confirmer qu'est-ce qui est conforme à lui. Là. Mais c'est quand même la place où, quand tu fermes les yeux, tu cognes à la porte de ton Père céleste par les mérites de Jésus puis la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi par lequel tu peux avoir un accès par Jésus-Christ à ton Père céleste. Donc, c'est la place aussi, Jacques va dire, c'est là où d'où viennent tous les dons spirituels, toutes les bénédictions. C'est la place où, ce matin, s'il y a quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, quelque chose que Dieu nous communique par son Saint-Esprit, eh bien, c'est de là que ça vient. Ça vient de la présence même de Jésus. Dans Psaume 123, verset 2, le verset dit, « Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. » C'est pour prendre l'exemple proche, puis je ne vous compare pas à mon chien, mais quand j'arrive chez moi, mon chien, il commence à saliver. Pourquoi il salive? Il aime voir ma face, mais il aime encore plus regarder mes mains. Parce que dans mes mains, quand il va aller faire son petit pipi, après ça, il va avoir aussi une récompense. Et l'idée ici, c'est que chercher Dieu, chercher les lieux célestes, c'est à quelque part d'avoir une attente que Dieu va venir rencontrer mon besoin, qu'il va me donner des réponses et puis qu'il va venir me bénir. Okay. Donc, mon chien, à chaque fois qu'il bave, c'est qu'il est certain, déjà, son corps a déjà commencé à réagir au fait qu'il va avoir une friandise s'il était fait un beau petit pupille. Okay. Et donc, c'est la même chose pour nous. C'est que chercher les choses d'en haut, c'est se tourner vers Dieu en prière, mais aussi avec la parole. Puis je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur le fait qu'on s'approche avec sa parole pour l'étudier, pour la méditer, pour l'entendre prêcher, puis saliver sur ce qu'il a l'habitude de nous donner quand on se tourne vers lui. Puis Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est une condition. Quand tu le pries, que tu lis ta Bible, que tu cherches sur un sujet, il faut que tu t'attends. Il faut d'abord que tu saches que tu pries à un Dieu qui est là et qui est vrai. Tu n'es pas quelqu'un qu'on admire beaucoup qui prie à un Dieu qui n'existe pas. Tu as beaucoup de foi, mais c'est parce que tu as des bonnes raisons de croire qu'il existe, puis tu le crois. Tu as décidé de croire qu'il existait, puis qu'il était le rémunérateur ou celui qui récompense ceux qui le cherchent. On vit aujourd'hui, en 2017, dans un monde qui croit qu'on ne peut pas être convaincu de rien. Puis ma question, c'est, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour les croyants? Est-ce qu'il veut que les croyants ne soient pas convaincus de rien, qu'ils ne soient pas convaincus que Dieu existe? Qu'il ne veut pas que les gens soient convaincus qu'il récompense ceux qui le cherchent? Non. Jacques, le frère du Seigneur, il a, dans son premier chapitre, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, évidemment qu'on n'est pas convaincu de rien, sinon on ne demanderait pas pour de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc, dans ce passage-là, la personne qui demande la sagesse, c'est bien sûr qu'elle n'a pas tout compris, fait qu'elle a besoin que Dieu lui donne de la sagesse, mais que quand elle demande à Dieu, elle sache qu'il existe, puis qu'il l'a écouté dans sa prière, qu'il y vienne avec foi sans douter. Donc, ça veut-tu dire que les chrétiens sont sûrs de rien, de tout? Non, au contraire, on s'approche de Dieu parce qu'on est sûr de rien. Mais il y a des choses, par contre, qu'on est certain dans le monde, puis on n'est pas ce genre de prétentieux qui a trouvé la vérité sur tous les sujets. Mais on a une vérité qu'on croit fermement. Les chrétiens croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. On croit qu'il est là, puis qu'il entend nos prières. Notre monde d'en bas, et là je commence à faire du en bas puis du en haut, parce que c'est ce que je vous ai promis que je ferais durant le message. Le chrétien vit dans un monde d'en bas qui crie haut et fort, « Tu n'es sûr de rien. » Comment? Et c'est pour ça que les gens vont souvent vous dire, « Toi, qui me dit que c'est ta religion qui est la bonne? » Tout de suite, il y a cette définition qu'on peut être sûr de rien, on ne peut même pas être sûr de Dieu. Hein? Et donc, l'homme agit un petit peu comme un homme aveugle qui dit, « Tous les hommes sont aveugles et personne ne peut voir. » Comment une personne peut arriver, une personne aveugle, à dire que toutes les autres sont des aveugles? Et qu'il n'y en a pas un qui voit, à moins qu'il les ait rencontrés un par un, ou bien non, qu'il voit, qu'il ne soit pas vraiment un aveugle. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas être sûr de rien? C'est une croyance. C'est la croyance la croyance populaire, là, internationale, là, c'est ce qu'on va décrire comme étant l'humanisme aujourd'hui. Et les chrétiens, s'ils tombent dans ce raisonnement-là, ils vont finir par douter que Dieu, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être Allah, c'est peut-être Krishna. Et il va commencer, sa fondation même de sa foi va venir finir par s'ébranler. Et ils vont être comme les flots de la mer, et comme une barque qui est agitée d'un côté et de l'autre aussi. Ah! Paul, quand il écrit 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 6, il semble être convaincu que l'homme est aveugle, mais que le chrétien voit. Il disait ceci, il disait, « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, ceux qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire, cette sagesse qu'aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'homme n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Et ce n'est pas parce que l'homme ne peut pas le voir, c'est parce que c'est caché. Il dit, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, Paul dit, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Dans ce verset-là, l'homme connaît les choses qui appartiennent à l'homme. Un homme sait comment un homme ou une femme, là, quand je dis le mot « homme » dans mon message, c'est l'être humain. L'être humain, il connaît les choses qui sont dans l'être humain. Il sait comment il réagit, il sait qu'est-ce que ça fait sur l'autre quand il fait des actions. Il est capable d'arriver à des conventions humaines qui sait qu'est-ce que ça pourrait être, l'idéal de comment on pourrait vivre en société, genre de l'homme pour l'homme. Il connaît l'homme, il connaît l'impact de l'homme sur l'homme, la pensée de l'homme, il ne connaît pas la pensée de Dieu sur Dieu, et ne connaît pas la pensée de Dieu sur l'homme. Nous sommes dans cette catégorie-là, on connaît juste qu'est-ce qui est dans l'homme, et à moins que le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu nous le communique, eh bien, on est dans le noir, comme toutes les autres hommes, on est dans le noir. Par contre, ce verset-là dit que Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Dans ce passage-là, il semblerait qu'on peut connaître la pensée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a ressuscités avec Christ, on peut aussi connaître les choses de la pensée de Dieu. Dans les systèmes de pensée de l'homme, qui définit l'homme et les grandes questions de la vie, l'homme a produit une théologie, on pourrait le dire comme ça, mais ce n'est pas une théologie parce que ça ne parle pas vraiment de Dieu. Mais il a développé un système de croyance, une religion qui s'appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est une croyance. L'humanisme, je vais le définir aujourd'hui, ça c'est le slogan de la Société américaine d'humanisme. Nous pouvons être bons sans un Dieu. Ça c'est le slogan. Bons sans un Dieu. Les croyances, c'est une croyance en fait, qui tente de répondre aux grandes questions de la vie. Pareil comme le christianisme, c'est-à-dire, qui suis-je? Est-ce que je suis un accident? Ou bien non, je suis créé. Le christianisme va dire que j'ai été créé. L'homme serait un accident. Comment y suis-je arrivé? L'humanisme va dire par une soupe prébiotique, une genre de source de non-vie qui est devenue de la vie. Le christianisme va dire on a été créé par un Dieu tout-puissant, personnel, intelligent. Pourquoi suis-je ici? L'humaniste va dire, pour m'accomplir, puis pour tirer au maximum du bonheur durant cette vie. Tandis que le christianiste va dire, pour connaître Dieu, pour le glorifier. Où vais-je? Qu'est-ce que je veux, ce qu'on va aller dans la vie, c'est comment on va vivre en tant que société? L'humanisme répond à cette question-là, non seulement de l'individu, mais de la communauté. Puis il dit, en tant que monde, en tant que l'homme, quel genre de société on va devenir? Et donc, l'humanisme se penche beaucoup sur ça. Pareil comme le christianisme qui nous parle d'une destinée non seulement dans ce monde, non seulement d'un but de comment on va vivre dans le monde, mais encore d'une perspective éternelle et d'une destinée finale. Mais comme le christianisme, l'humanisme, c'est un système de croyances. Puis pour, peut-être que les gens disent, hey, pourquoi tu dis ça? Je vais juste passer quelques faits. Dans le Manifesto 1, qui est écrit en 1933, le Manifesto, Humanisme Manifesto, ça veut dire, ça ici, c'est la déclaration de foi humaniste, on pourrait appeler ça comme ça, de cette religion-là. Au début, déjà, dans l'affirmation numéro 7, c'est écrit « Rien d'humain n'est étranger à la religion ». Donc, tout ce qui touche à l'humain, ça touche à la religion. Ça inclut le travail, la science, la philosophie, l'amour, l'amitié et les loisirs. Dans un autre point que je vais... Dans l'affaire de l'Arkansas, on va voir que l'humanisme s'associe à la religion. En Arkansas, il y a des professeurs et des gens qui se sont battus pour faire reconnaître l'humanisme comme une religion, justement. Et le but, c'était que, dans le fond, pourquoi on enseignerait plus la religion de l'humanisme que la religion du créationnisme dans nos cours de sciences, alors que toute la théorie de l'évolution est basée juste sur une foi, une confiance dans quelque chose qui aurait peut-être pu arriver, mais c'est des éléments de foi à 100%. Et dans le fond, en Arkansas, ils se sont battus fort pour faire reconnaître le gouvernement qu'ils ont le droit de donner des cours de création, puis ils ont gagné. Puis ils ont demandé à un gars qui s'appelle Norman Geisler, on a demandé de définir est-ce que l'humanisme est une religion. Et trois points qu'il a sortis dans son argumentaire principal, il a dit que l'humanisme est d'un point de vue religieux, philosophique, moral et aussi vieux que la civilisation elle-même. Il a cité ça du manifesto. Le manifesto disait l'humanisme est d'un point de vue religieux, philosophique et moral aussi vieux que la civilisation elle-même, la page 3. Il a compté, dans la première partie du document, 28 fois le mot religion comme étant au sens positif pour définir c'est quoi l'humanisme. Et finalement, il dit dans le manifesto, il y a une description des idéaux moraux d'une vie idéale, non seulement pour la vie individuelle, mais pour toute l'humanité. Et tout cela est très semblable à une religion. Intéressant. Dans la Cour suprême aussi, il y a eu une affaire qui a passé en cours, c'est Torcaso contre Walkins. Et dans cette affaire-là, la Cour suprême des États-Unis a statué comme ceci. Parmi toutes les religions de ce pays qui n'enseignent pas la croyance que l'on considère une croyance dans l'existence en un Dieu sont le bouddhisme, le taoïsme, l'éthique culturelle, ça on connaît bien ça au Québec, et le sécularisme et les autres. Donc, la Cour suprême a statué qu'ils reconnaissent que c'est une religion qui ne reconnaît pas Dieu, comme le bouddhisme qui, dans le fond, ce n'est pas un Dieu matériel, ce n'est pas un Dieu personnel et unique. Intéressant. Quels sont les fondements de cette croyance-là? Puis ma question pour vous, c'est, êtes-vous impacté par cette croyance-là? Je vais vous la reposer à la fin du message. La non-existence de Dieu ou la non-pertinence de Dieu, ça c'est un des six fondements. L'homme est le centre de toute chose. La réalité de l'évolution, bien, l'homme est un animal évolué, finalement. L'absence de morale ou de valeur absolue. La confiance dans la méthode scientifique pour résoudre les problèmes de ce monde. Alors ça, c'est les affirmations de foi, qu'on pourrait dire, de ce que notre monde croit là, en majorité, là, le monde humaniste. Et la question, c'est est-ce que ces croyances-là ont un impact sur vous et sur vos enfants? Romains 12, verset 2, dit qu'il faut être renouvelé dans notre esprit de notre intelligence pour ne pas être comme le monde. Et donc, de ça, on a besoin d'être nettoyé, on a besoin d'être lavé. On est dans une société qui ne cherche pas Dieu sous des croyances que j'ai énumérées. Et le croyant, lui, reçoit de Dieu l'appel de chercher les choses d'en haut et une foi basée sur les certitudes que Dieu existe, que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Puis après qu'on ait été en haut, normalement, on est supposé de revenir avec des réponses. Des réponses qui vont nous donner des certitudes dans un monde qu'on est sûr de rien. Et c'est là, vraiment, qu'on est à contre-courant total. On va continuer avec notre passage au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tantôt, c'était marqué « Cherchez les choses d'en haut ». Et là, c'est encore écrit qu'il faut faire quelque chose avec les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment est-ce qu'une personne cherche les choses d'en haut? Eh bien, on a un deuxième qualificatif ici, que ce n'est pas juste de chercher, c'est de s'affectionner. Et le mot s'affectionner, c'est le mot phronéo, et ça veut dire diriger vos pensées sur les choses qui sont élevées, des choses qui sont dignes. OK, donc tu ne dois pas juste chercher ce qui est dans les cieux, ça peut refléter les efforts que tu y mets pour y arriver, mais tu dois aussi y engager ta pensée, et ça parle d'une disposition intérieure pour y arriver. Les choses de la terre ne sont pas mauvaises. Les choses que l'humanisme a décrites, là, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, comme toutes les lois sur les droits de la personne, là, puis tout le droit à l'égalité, etc. Tu sais. On doit d'ailleurs plusieurs politiques qui nous permettent d'exister en tant que chrétien évangélique minoritaire au Québec à cause de lois humanistes qui disent que tout le monde a le droit de s'exprimer, que tout le monde peut poursuivre le bonheur comme ils le conçoivent. Et donc, l'Église chrétienne évangélique, même si elle est très minoritaire, eh bien, elle peut avoir ces droits-là. Donc, il y a plein de choses qui viennent de bon. Donc, tout ce qui est d'en bas n'est pas nécessairement mauvais. Et même dans le passage, ça ne parle pas nécessairement de ce qui est mauvais, mais plus tard, on va nous parler de ce qui est mauvais dans le reste du passage. Mais les choses qui sont en bas sont peut-être pas mauvaises, mais elles sont limitées. Puis quand on cherche les choses d'en bas, puis nos réponses juste en bas, comme nos collègues, confrères humanistes, bien, puis on n'a pas été cogné en haut, eh bien là, c'est que les choses secondaires sont devenues primordiales. Et donc, on est devenu d'une certaine manière comme le monde. On est devenu comme le monde parce qu'on n'a pas été chercher nos réponses en haut, on fait juste les prendre en bas. Et en ce sens-là, on peut dire qu'on a perdu la priorité de chercher le royaume de Dieu en premier. Un peu plus là-dessus. Il nous parle de notre ancienne vie. Il nous parle de qu'est-ce qu'on est par rapport à notre ancienne vie. Il dit « Vous êtes mort », mais dans le grec, c'est « Vous avez été mis à mort ». Et donc, il y a eu une séparation. Le mot veut dire séparation. Vous avez été séparés de votre vie autonome et indépendante du péché ou de l'incrédulité ou d'une vie qui fonctionnait juste en bas. Vous avez été mis à mort ou vous avez été séparé. C'est arrivé dans le passé et votre vie a été prise puis elle a été cachée avec Christ. Donc, on a dit tantôt que Dieu en haut où Christ était. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Christ. Qu'est-ce que ça disait? Ouais, quelque chose comme ça. Donc, et là, c'est écrit ici que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, notre vie, c'est d'être caché avec Christ et chercher les choses d'en haut, c'est de chercher notre identité puis la source de notre vie, là où c'est caché, c'est avec Christ. Et l'appel que nous avons, c'est de ne plus suivre les conseils de notre propre cœur ou de suivre notre propre conseil indépendant, mais d'aller à Dieu pour avoir la vérité. OK? Ça, c'est important. On ne doit pas vivre juste dans un système qui est appris d'en bas, mais avec un point de vue de Dieu sur les choses. Je vais répondre aujourd'hui à la question, est-ce que c'est bon? Tu sais, le slogan qui dit « être bon sans… » Et là, ils ont rajouté un Dieu. Hein? « Et God, un Dieu. » Est-ce que c'est possible d'être bon sans Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut être bon sans Dieu? Qui pense que oui, levez la main? Oui? Qui pense que non, levez la main? OK, c'est mitigé un petit peu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est possible d'être bon sans un Dieu? Bien, si on regarde selon la Bible, puis si la question est vraiment littérale, puis qu'est-ce qu'on comprend par bon avec Dieu ou sans Dieu? Bien, si on comprend que l'homme existe par le souffle et le maintien de sa vie par Dieu, il ne peut pas être bon sans Dieu, parce qu'il ne peut pas être mal sans Dieu non plus, il ne peut juste pas être sans Dieu. On ne peut même pas finir la phrase. Okay? Aussi, est-ce qu'une personne chaque personne, même ceux qui ne sont pas chrétiennes, ont été créés image de Dieu? Oui. Donc, si la Bible nous dit que l'homme est l'image morale de Dieu, alors être méchant, c'est d'aller contre l'image de comment on a été créé. Le péché est venu dans le monde, puis est venu détruire cette image-là. Mais être bon voudrait aussi dire dans le monde, selon la Bible, que c'est d'agir conformément aussi à l'image que nous sommes de Dieu. Et donc, une personne qui peut être bon dans le monde sans être un croyant, bien, si à la base, elle est créée image de Dieu, bien sûr qu'elle peut être bonne. Elle peut être certainement bonne et parfois même faire rougir les croyants. Mais si la question signifie est-ce que c'est possible d'être bon si Dieu ne nous dicte pas par la Bible d'être bon, la réponse est oui. Puis l'humanisme, il dit, on peut-tu, s'il vous plaît, être bon sans avoir de Dieu qui nous dit quoi faire? Les pères de cette pensée moderne-là sont tous, est-ce que c'est possible qu'on trouve juste en nous, dans l'homme? Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un gouvernement de l'homme pour l'homme? Qu'il n'y ait pas d'autorité, de droit. Dans le temps, on se battait contre l'impérialisme, mais aussi tous les représentants de la religion qui vont venir nous dire quoi faire. On peut-tu pas se faire dire quoi faire, puis de dire, on va le décider nous autres ensemble, quel genre de société qu'on peut avoir? Oui, c'est possible. C'est possible parce que c'est ce qu'on a acquis à la chute. C'est le cadeau qu'on a eu à la chute. En fait, Dieu nous a dit que ça nous était possible. C'est pas que c'était bon, c'est pas un cadeau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a hérité de ça. C'est-à-dire qu'on est devenu des juges moraux. Et qu'est-ce qu'on a dit dès les premières pages de notre Bible? C'est-tu possible d'avoir juste dirigé ma vie sans avoir un code moral qui va me dire quoi faire? Et c'est exactement ce qu'on a revendiqué. On a revendiqué notre autonomie d'avec Dieu et on a déterminé ce qui était bien et ce qui est mal. Et bon sans Dieu, c'est le slogan des humanistes. Et c'est un monument qui donne une raison au récit de la Genèse. C'est vraiment une évidence qu'on est dans un monde perdu, dans un paradis perdu. Donc, à date, on a vu « Affectionnez-vous et dirigez vos pensées sur les choses d'en haut ». Je vais prendre un exemple. La Bible, est-ce que c'est bien de ne pas mentir? Est-ce que c'est bien de ne pas mentir, sans la Bible? Est-ce que c'est bien de ne pas mentir? Est-ce que quelqu'un peut arriver à cette idée que c'est bien de ne pas mentir sans être obligé de croire dans un dogme? Quelle raison, admettons, qu'une personne pourrait dire « Moi, je ne veux pas mentir. » Puis il ne veut rien savoir de Dieu ni de la religion, mais il ne veut pas mentir. Pourquoi? Conviction personnelle, pourquoi, admettons? va faire de peine. Donc, il sait que s'il ment, il va attrister la personne qui partage sa vie. Oui, quoi d'autre? Pas vivre les conséquences du mensonge. Quelles pourraient être les conséquences du mensonge? Mais si le parent, c'est pas important pour lui de mentir ou pas, il n'y aura pas de conséquences. Enfin, il va y avoir une conséquence. Ça va être quoi la conséquence du parent qui n'a pas de conséquences? Si on ment. On ne saura plus qui dit la vérité, right? On ne se croira plus. Donc, le meilleur des humanistes qui croit que Dieu n'existe pas, mettons, là, puis qui dit, regarde, c'est de l'homme pour l'homme, puis on vit ensemble, il pourrait pousser à l'extrême, puis dire, hey, si je mens, si tout le monde mentrait, il n'y a plus personne qui se croirait, je ne pourrais plus mentir. Puis aussi, je peux mentir à mon conjoint ou à mon enfant peut me mentir, mais à un moment donné, il va arriver à un endroit où le poteau rose va être découvert, puis là, on va vivre les conséquences de les gens qui n'auront plus jamais, qu'est-ce qu'on va dire? Fait qu'on peut avoir peur des conséquences comme ça. Fait que dans l'humanisme, bien sûr, qu'il peut arriver à cette idée-là de ne pas mentir. Parce qu'il ne pourra plus mentir, là, quand il va être découvert, il n'aimerait pas ça se faire mentir, fait que bon, il prend la logique. J'aimerais pas ça que ma conjointe me mente, donc je ne ferai pas ce que j'aimerais pas me faire faire. De l'homme à l'homme. On ne parle même pas de Dieu dans ce système-là. C'est une limite de ce qu'il apporte ou enlève à l'homme. Mais, vous et moi, on cherche Christ. On cherche en haut. Et là, on cogne au ciel et on dit, « Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis du mensonge? » Et là, ça devient une relation avec Dieu. Et on s'aperçoit que Dieu s'intéresse pas mal plus à la conséquence de ce que ça pourrait faire. Il s'intéresse au caractère de ce que je suis en train de devenir. Et même si je n'ai pas été découvert. Par exemple, on lit le passage d'aujourd'hui, un peu plus loin, au verset 9. Il dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Dans ce passage-là, on voit que une des raisons pourquoi on ne devrait pas mentir, c'est qu'on s'est dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc, si on le faisait avant, on ne devrait plus le faire parce qu'on a enlevé un vêtement et c'est encore au passé comme quelque chose qui est arrivé une fois pour toutes. Et c'est arrivé quand on a cru. Quand on a accepté le Seigneur Jésus, la vie éternelle, on a reçu l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là, il n'est pas comme l'ancien homme. Si on comparait ça à un manteau, le manteau a été enlevé avec lui le mensonge. Les actions de mensonge. Et donc, si c'était des actions qu'on pouvait faire dans le passé, c'est suffisant aujourd'hui pour demander à l'homme de ne plus le faire puisqu'il a revêtu un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, ben, il se renouvelle dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Contrairement au vieil homme qui, à d'autres passages, comme dans Éphésiens 4, dit que le vieil homme se corrompt de plus en plus. Donc, une personne qui se corrompt, c'est quoi dans le mensonge? C'est une personne qui dit des mensonges, se fait pas prendre. Puis a un bénéfice. Dire un mensonge, fais pas prendre, a des bénéfices. Il y a des gens qui se sont rendus riches comme ça. Il y a des hommes d'affaires que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas donné le salaire jusqu'à des 10, 15 000 $ là, de contrat comme ça. Puis quand la personne dit « je t'amène en cours », il le virait. Puis il disait que le job n'était pas fait. Puis tout le long, il ramasse des critiques sur le travail qui a été fait pour justifier que ça ne doit pas être payé. Peut-être pas comme un employé-employeur, mais des sous-contrats. Il y a des gens d'affaires qui fonctionnent comme ça. Puis à force de le faire, ils ne se font pas pogner, ils réussissent toujours à s'en sortir, ils se souillent eux-mêmes ou se corrompent eux-mêmes dans la méchanceté. Et donc, le vieil homme est considéré comme étant quelque chose qui se corrompt continuellement. Il finit par appeler qu'est-ce qui est mal, bien. Mais l'homme nouveau, lui, se renouvelle continuellement dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Fait que contrairement au vieil homme qui se corrompt de plus en plus, le nouvel homme qui représente la nouvelle expérience de résurrection, la nouvelle vie qu'on a reçue en Jésus-Christ, ça devient continuellement nouveau et conformément comme un patron à son image. Oh, il y a du mensonge ici qui s'est ajouté. Renouvelle ta connaissance là-dessus. Tu es off. Là, en plus, le croyant, il y a un Père céleste qui aussi le corrige dans sa pensée. Fait que là, il dit Jésus, Jean-Sébastien. Le nouvel homme que tu es devenu, il y a un stencil tout le temps, il y a comme un genre de un patron. Et là, on a été créés tous à l'image de Dieu, mais on a été créés à nouveau à l'image de Christ. Et donc, c'est selon cette image-là que Dieu va regarder continuellement et poursuit le changement du caractère dans ma vie qui est conforme à l'image de celui qui m'a créé à nouveau en Jésus-Christ. Et donc, le chrétien ne ment pas parce que celui qui l'a créé à nouveau ne ment pas. Et parce qu'il y a un processus qui est enclenché dans mon cœur, d'être transformé dans mon caractère, je suis en train d'être amené à l'image de Christ. Et tout ce qui est contraire à ça, ça serait de la rébellion face à ce processus-là. Donc, le chrétien ne ment pas parce que celui qui l'a créé à nouveau ne ment pas. Puis plus je grandis dans la connaissance, plus l'image de Jésus-Christ qui m'a créé à nouveau paraît plein de grâce, plein de vérité. Donc, pourquoi le chrétien ne ment pas? Le chrétien ne ment pas parce qu'il a peur des conséquences. C'est certain que ça en fait partie. Est-ce qu'il aimerait que sa femme lui mente? Ben non. Est-ce qu'il aimerait ça que son enfant lui mente et qu'il n'y ait jamais de conséquences? Ben non. Mais il est bien plus élevé que ça dans sa pensée. Il se dit, moi, je ne mens pas parce que celui qui m'a racheté, qui a payé pour mes mensonges, ne ment pas. Et en plus de ça, il me transforme continuellement. Plus j'apprends à le connaître, plus je deviens comme lui. C'est bien plus élevé que tu ne mentiras pas de la loi de Moïse. C'est bien plus élevé que les choses d'en bas de dire, hey, on ne se mentira pas, hein, parce que tu sais, ça fait mal hein, quand on se ment. Non, non, je ne mens pas parce que celui qui m'a créé à nouveau ne ment pas. Puis il est en train de me transformer. Plus j'apprends à le connaître, plus je deviens comme lui. C'est bien plus élevé. Cherchez les choses élevées. Cherchez les choses d'en haut. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si une personne ne ment pas, c'est parce qu'elle reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle est devenue quelque chose d'autre, puis qu'elle veut glorifier celui qui l'a créé à nouveau. Il y a ce désir de glorifier Dieu puis d'être le résultat de le connaître, de connaître Dieu, de le faire connaître. Jacques, le frère du Seigneur Jésus, a dit, « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, une vigne, des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il le montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Jacques dit, « Vous êtes sage. Good. Vous dites que vous êtes intelligent. Super. Prouvez-le. Montrez-le en produisant un comportement qui est doux. Est-ce qu'un eau salée peut produire de l'eau douce? Est-ce qu'un olivier peut produire des figues? Est-ce qu'un figuier peut produire des olives? Non. On va produire ce qu'on est à l'intérieur. » Et donc, il dit, si tu es une personne qui te querelle puis que tu te dis intelligente, tu mens contre la vérité. Donc, si on a un passage qui nous parle de mentir, mais pas, la personne n'a pas dit un mensonge, elle a été un mensonge. Elle dit d'être dans la vérité, elle dit qu'elle a de l'intelligence, qu'elle est sage, mais elle agit dans un comportement de querelle. Et son comportement devient un mensonge en soi. Donc, elle peut être sage et intelligente d'en bas, mais pas d'en haut. Alors, on commence à faire encore une fois ce contraste-là. Dans la sagesse d'en bas, on se querelle et on se dispute parce qu'on pense avoir raison au nom d'une vérité. C'est des vérités, c'est toujours des vérités qui nous amènent à se contredire les uns les autres, mais le passage dit, si vous vous querellez puis que vous dites avoir la vérité, bien, vous mentez contre la vérité. La sagesse d'en haut produit une vie de douceur et de comportements qui sont vrais. Des comportements qui sont en vérité, conformes à la vérité. Un homme sage, il ne peut pas juste dire la vérité, il est appelé à être conforme à la vérité par la douceur que produit cette vérité-là. Quelqu'un qui dit la vérité, un homme intelligent ou une femme intelligente et sage, c'est une personne qui sait que ce n'est pas juste ce qui est dit qui est vrai, mais c'est ce qui est vécu aussi qui est vrai. On va parler d'une voie de vérité, une voie de mensonge aussi. Par exemple, dans le psaume 119, verset 104, il dit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent et je hais toute voie de mensonge. » Pas juste les mensonges, mais les voies de mensonge. On s'aperçoit que le mensonge concernant comment les gens pourraient le définir dans ce monde versus comment la Bible le définit, tu dis « Boy, OK. » Jacques confirme que l'homme intelligent et sage va produire une conduite douce, comme l'olivier produit des olives, le figuier produit des figues, et l'homme sage et intelligent va produire de la douceur. Puis dans cette éthique-là, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Selon quand on lit Jacques, quand on cherche les choses d'en haut, on est appelé à acquérir une vraie intelligence, puis une vraie sagesse d'en haut, afin de produire des fruits qui viennent d'en haut aussi. Puis dans ce passage-là, on est tous mis à nu, et ça nous pose la question sur, est-ce que t'es-tu l'olivier qui produit ces olives-là? Est-ce que tu es la source d'eau douce qui produit cette douceur-là? Et donc, ça l'amène à le chrétien à connaître son Dieu d'une façon beaucoup plus... Est-ce que j'ai dit un mensonge? Je n'ai pas dit un mensonge. Est-ce que ça va avoir une conséquence? Ça n'aura pas de conséquence. Non, c'est est-ce que je suis vrai avec qu'est-ce que je sais être vrai? C'est beaucoup plus profond. Ça produit des fruits d'en haut. Puis le passage, il nous met à nu et il nous appelle à ne pas s'en faire croire. Si tu es là et tu fais de la chicane partout ce que tu passes, puis que tu dis avoir la sagesse, au nom d'une sagesse, tu sais, de te faire tous ces conflits-là, bien là, Jacques, il te rassit puis il dit, sois vrai, agis de façon vraie. En passant, je prêche le mensonge parce que je prêche sur l'éthique. Fait que je ne prêche pas à personne qui a menti. Hein? Fait que là, je me sens libre vraiment de parler. OK? Ça marche. Puis en passant, mes cours, c'est éthique à l'école. Fait que je suis dans ça. Puis un des gros points, c'est que l'homme est capable de faire des lois. Puis un des arguments qu'ils disent, c'est que personne ne voudrait... Un principe, ça s'appelle le principe d'universalisation, qui dirait le mensonge est mal, même si on n'a pas de Dieu. Parce que, justement, personne ne pourrait mentir. On ne pourrait pas que tout le monde mente. Donc, si tout le monde mentirait, bien, le monde, on ne saurait plus qui nous dit la vérité. C'est un des arguments qui était sorti que je trouve intéressant. OK. J'en donne un troisième, puis il y a plus que 86 versets qui dit mensonge au pluriel singulier, mensonger. Fait que là, on en prend juste trois, là, parmi des. Il y a peut-être quoi, 100, 150 versets qui parlent de ces vérités-là. Tu sais. Mais chercher les choses d'en haut, on s'aperçoit que c'est pas mal plus profond que juste comme ment pas. Pourquoi Jacques dit que la sagesse est diabolique dans le passage ici? Il dit que c'est pas une sagesse. À cause qu'il y a de la querelle, ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais pourquoi il dit ici diabolique? C'est intéressant. Jésus parle du mensonge dans Jean 8, au verset 44, puis il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Dans le passage, les gens veulent tuer Jésus. Ce n'est pas compliqué. Ils veulent essayer de le prendre en défaut pour le mettre à mort. Depuis le chapitre 6, ils disent qu'ils sont les fils d'Abraham puis qu'ils suivent les lois, la loi de Moïse. Puis Jésus va dire qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham. Il va dire « Vous avez pour père le diable. » Puis là, il va commencer à donner une description du diable. Bon, pourquoi? Bien, ils se disent des hommes de foi, mais ils ont dans leur cœur un zèle amer, destructeur, puis le malin n'est pas trop loin dans des situations comme ça, pour faire un ravage entre des individus. Dans le cas de Jean chapitre 8, vous avez pour père le diable, il est meurtrier depuis le début, il est en train de leur dire littéralement, vous faites comme lui, vous voulez me détruire. Donc, ces gens-là ne sont pas vrais. Ces gens-là laissent croire qu'ils sont des hommes de foi, mais ils ont la mort dans leur cœur, ils ont le meurtre dans leur cœur. Il donne accès particulier à une activité démoniaque. Puis pour bien illustrer ça, encore, il faut chercher en haut, frapper en haut, puis dire, c'est quoi ça depuis le commencement? Et regarder dans les premières pages de notre Bible, voir le diable s'approcher avec un langage doux. Il y avait une douceur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu veux manger de cet arbre-là? Savais-tu que cet arbre-là, dans le fond, tu pourrais? Puis, et dès le commencement, tu manques quelque chose, tu vas pouvoir discerner le bien du mal. Et là, on vient offrir à l'homme la possibilité de devenir juge moral. Et il va avoir, lui, accès là, à ce privilège-là, qui appelle ça un privilège. Mais il vient avec une voix douce. Mais ça n'existe pas, ça, des absolus. C'est pas mal de manger de cet arbre-là. Dieu sait que si tu en manges, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. Puis... Et donc, il y a une grande activité démoniaque qui se passe dans ce passage-là parce que, au nom d'un bien, on veut se débarrasser d'un faux prophète. Jésus, on va le considérer comme un faux prophète. Donc, au nom d'un bien, on va faire le mal. Et donc, il y a une grande activité au nom du bien. Puis là, le malin, il va essayer de détruire Christ par ça. Dans Proverbes, on voit, dans Proverbes 26, verset 24, « Par ses lèvres, celui qui haït se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas. » Et le malin, dès le commencement, il est le père du mensonge dans ce sens-là. Il n'est pas vrai. Et donc, quand on n'est pas formé sur les choses d'en haut concernant le mensonge, mais ça pourrait être le vol, ça pourrait être n'importe quel sujet éthique de la manière de se comporter dans le monde, le manque de formation dans les choses d'en haut va éventuellement, dans les comportements qui vont être énumérés ici, ouvrir une brèche au malin pour opérer et détruire les humains. Vous avez été instruits dans Éphésiens 4 à vous dépouiller de votre vie passée, comme un vieux vêtement qu'on enlèverait, qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cherchez les choses en haut. C'est pourquoi renoncez au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le passage dit ici que le malin, avec sa grosse orteille poilue, il peut venir dans ses comportements de la vieille vie d'avant parce qu'une personne n'a pas laissé la vérité venir le renouveler dans son homme nouveau. Il peut avoir un accès, et le mot pour accès, c'était une plateforme d'action où le diable, une armée pouvait arriver sur une plage, installer ses quartiers généraux et avoir un accès à tout le pays à cause qu'il y avait accès à une plage. Et donc, on s'aperçoit que celui qui dit ou vit dans les mensonges ouvre une porte à l'activité démoniaque pour une destruction de cette même relation-là. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a mensonge, il y a diable? Non. Est-ce que lorsqu'il y a mensonge, il y a base d'opération pour le diable? Oui. Donc, pensez à ça. Si on est dans un monde matérialiste, où ce qu'il n'y a ni de Dieu, bien, il n'y a sûrement pas d'être spirituel non plus. Et donc, on ne voit pas tout le conflit angélique qui est derrière ces choses-là. Et, en tant que croyant, si on ne vit pas avec les définitions qui sont en Jésus-Christ, on est un petit peu comme le reste du monde, puis on ne voit pas le conflit angélique derrière les conflits. Donc, si on y réfléchit un petit peu, ça nous prend un point de vue d'en haut pour comprendre le point de vue sur le mensonge qui est de Dieu. Et c'est ce qu'on avait vu ici. Dirigez vos pensées sur les choses d'en haut. Et non juste à des définitions, des fondements, des philosophies qui sont sur la terre, des manières de se comporter qui sont sur la terre, des justifications de pourquoi on se comporte d'une telle manière sur la terre. Limitez-vous pas à ça. Allez chercher quelque chose qui est élevé. Car vous êtes mort, puis votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vers la fin de mon message, j'aimerais ça expliquer un petit peu les différences entre l'humanisme puis en haut. On a dit, puis il pourrait en avoir d'autres, là. Ça pourrait une liste là, qui pourrait descendre comme on veut. Mais on verrait assez vite une différence quand même avec une grande liste qu'on pourrait énumérer ici. Si ça vient à être découvert pour le mensonge, par exemple, ben on ne me croira plus pour rien. Je ne voudrais pas que mon conjoint, mon enfant me mente, etc. Donc, je ne voudrais pas avoir ces conséquences-là moi-même, donc je ne le fais pas. Dans ce qu'on a vu aujourd'hui dans le message, une conséquence de connaître Dieu et de devenir plus comme lui, c'est pour ça que je ne mens pas. Donc, ça parle plus d'une source, puis une œuvre que Dieu a commencé de glorifier Dieu. Ça, ici, c'est vraiment l'homme pour l'homme, ce que l'homme en a en tiré. Tandis qu'ici, il y a cette idée de glorifier celui qui nous a créés à nouveau. Vouloir porter le fruit de la sagesse d'en haut, pas juste dire les choses vraies, mais marcher en conséquence et en vérité, dans la vérité. Puis, pas inviter l'action d'esprit malin dans le domaine, dans ce domaine-là, par exemple, dans le mensonge, puis inviter à le laisser détruire les relations. Donc, le chrétien, tranquillement, qui vit d'en haut, il va aller dans une éthique ou dans un comportement qui est beaucoup plus élevé, qui reflète beaucoup plus la pensée de Dieu sur la vérité que juste la peur des conséquences ou qu'est-ce que ça serait un monde si tout le monde mentrait. Est-ce qu'il n'est pas intéressé juste à être vrai? Il veut devenir de plus en plus vrai dans toute sa conduite. Qu'est-ce qui est pareil avec la... OK, si on aurait voulu, comme je vous disais, on pourrait aller voir les mots mensonge, mensonge au pluriel, mensonger, puis on trouverait de Genèse à Révélation. Qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet? Et ça serait peut-être même un livre qui pourrait sortir de ça. Aujourd'hui, un message, un court message sur 3 versets sur le mensonge dans le Nouveau Testament. On s'apercevrait que, wow! Puis vous vous en êtes aperçu aussi, la parole de Dieu, elle est élevée. Il n'y a rien comme ça. Et puis c'est dommage qu'on ne s'en serve pas comme base pour plus que ça pour l'éthique dans notre monde. Si on compare la chute avec l'humanisme, l'homme est le centre. L'homme est le centre. Dans la chute, tu peux découvrir une éthique du bien et du mal sans Dieu. Dans l'humanisme, tu peux découvrir une éthique du bien et du mal sans Dieu. Dans la chute, il y a une promesse d'une grande émancipation, c'est-à-dire tu peux ne pas avoir personne pour te dire quoi faire et être bon sans Dieu. Et dans la chute, tu as la promesse d'une grande émancipation dans le monde. Intéressant. Donc, dans l'éthique de l'homme pour l'homme, c'est comme ça se limite juste à qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de l'homme sur l'homme. Mais ce qui est en haut a pour centre Dieu. L'homme se tasse du centre et dit, je ne mentirai pas parce que ça va me faire quelque chose simplement, mais parce que ma vie, le but de ma vie, c'est de glorifier Dieu et de le connaître. Et donc, qui devient le centre de ma vie? Qui devient le centre de mon comportement? Qui vient dicter maintenant comment je vais agir dans le monde? Ce n'est pas ma peur, moi, que je vais vivre dans les conséquences. Oui, mais pas juste ça, c'est que Dieu va être glorifié. Dieu va être élevé parce que je vais avoir été vrai. Je vais avoir marché dans la vérité, je vais avoir dit la vérité, puis lui va être élevé. Et ça, ça va me rapporter une grande joie que de vivre sur la terre dans le but pour lequel j'ai été placé sur la terre, qui est de connaître Dieu puis de le faire connaître. Conclusion. Le gros problème du peuple d'Israël, c'est qu'il s'éloignait de ce que Dieu lui disait et il commençait à se comporter comme les gens de ce monde. Et il va dire par le prophète Jérémie, prochaine acétate, voici l'ordre que je leur ai donné, dans Jérémie 7, verset 23, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Cependant, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais et ils ont régressé au lieu de progresser. Et donc, ma question au départ, c'est est-ce qu'on vit juste en bas? Puisque s'il nous demande d'appeler en haut, s'il nous appelle de chercher en haut, c'est parce que nombre d'entre nous, on ne cherche pas en haut, on marche comme en bas. Comme le peuple d'Israël, on vit comme si Dieu n'était pas pertinent pour cette situation. Je n'ai pas besoin d'étudier, moi, sur le mensonge. Je sais que ce n'est pas bien mentir. Non, mais regarde ici. La non-pertinence, c'est de ne pas chercher Dieu, chercher des solutions dans le monde, mais de ne pas chercher qu'est-ce que Dieu dit de ces choses-là. Est-ce qu'on n'agit pas comme un humaniste? Quand on fait ça? L'homme est le centre de toute chose. C'est là qu'on a le bas blesse. Parce que c'est difficile, même aujourd'hui, de faire un disciple. De dire là, que la personne va avoir assez de temps à mettre à part pour... Parce que là, qu'est-ce qu'il y a au centre? On est dans une société hyper occupée. Même là, je me demande si je n'ai pas dépassé mon temps. Je veux pas. Mais il y a toujours cette idée, est-ce que je suis en train d'embarquer dans une... Ah, on n'a pas de temps. Puis on est occupé. Puis c'est vrai, la société, elle nous attire dans toutes sortes de choses, puis on a des semaines de malade. Fait qu'on se dit... Mais c'est dur d'être un disciple de Jésus-Christ en 2017 parce qu'on est au centre de beaucoup de choses. Puis si on en parle souvent, quand une personne vient à Jésus, souvent, tout le monde est abonné dans quelque chose. Puis à un moment donné, tu dis qu'il faut que, tu sais, ils commencent à penser à mettre leur rassemblement de côté pour chercher les choses d'en haut, tout ça. Là, tu t'aperçois que le travail devient une nuisance là, pour faire ça. Donc, il y a comme un genre de détrônage qui doit se passer où ce que la personne qui cherche les choses d'en haut, il faut qu'elle dise « Hey, c'est-tu quoi? Je ne suis pas moi le centre de ma vie. C'est Dieu. Puis si je n'ai pas le temps pour lui, si je n'ai pas le temps d'étudier, si je n'ai pas le temps de lire, eh bien, il y a trop de moi au centre. Alors, comment je vais commencer à aller en périphérie puis de laisser la parole de Dieu parler dans ma vie pour que je puisse chercher les choses d'en haut? » Donc, l'humanisme a gagné le cœur des croyants si le croyant est le centre de tout ce qui meuble sa vie, puis qui n'a pas le temps pour faire son ministère, il n'a pas le temps pour chercher la parole de Dieu, il n'a pas le temps pour chercher son Dieu. Il est humaniste. Il vit comme si Dieu n'était pas important, ou il n'y avait pas un dialogue à apporter dans sa vie. Bien qu'il soit là pour glorifier Dieu, il est le centre de toute chose. Voilà. Je veux finir avec l'agenda de l'humanisme par les penseurs de l'humanisme pour vos enfants, pour vos neveux, nièces et les enfants de cette église. OK? C'est ceci. Charles Francis Potter, un des penseurs humanistes qui a vécu 1885 à 1962, dit « L'école est l'allié le plus puissant de l'humanisme. Qu'est-ce que l'école du dimanche? » qui se rencontrent une heure par semaine et n'enseignent qu'une fraction des jeunes, peuvent faire pour endiguer la vague d'un programme de 5 jours d'enseignement humaniste. C'est une croyance. C'est comme un gros tsunami qui est rentré sur l'Amérique. Tu sais. Puis là, on en sauve quelques-uns qui disent « Hey, c'est quoi? C'est Dieu qui est le centre. C'est Dieu qui veut être le centre de ta vie. Hein? » Je dis, je parle de Dieu, je sais, dans ma classe, je parle de Dieu, puis les gens sont... Je sais, puis à la limite, je les entends dire, « Tu es fatigué, lui? » Puis il y a quelqu'un qui m'a confirmé qu'il y a quelqu'un qui avait dit que j'étais fatigué. Mais c'est, je le sens, c'est comme, les gens disent, « C'est Dieu. » Ça a affaire à quoi, ça, en 2017? Et il y a cette idée-là, cette arrogance-là, qu'on peut vivre notre vie en étant le centre de nos vies. Et Dieu nous appelle à venir au centre, puis à dire, « Je vais t'enseigner, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Tu sais? » Et donc, il y a ce combat-là. Et dans le fond, on n'est peut-être pas humanisme en croyance, mais on est peut-être humaniste en pratique. On a besoin de dire, hey, où est-ce que j'en suis avec les choses d'en haut? Est-ce que je suis sérieux dans ma marche avec Dieu pour connaître Dieu et le faire connaître dans ce monde-ci? Puis je veux étudier ta parole, je veux aller fermer les yeux dans le lieu secret, aller dans les lieux célestes, me tourner vers celui où ma vie est cachée, puis être sérieux dans ce monde, puis pas juste vivre comme d'en bas, parce que vous n'êtes pas d'en bas, vous êtes des citoyens des cieux, je suis un citoyen des cieux. Puis bientôt, on va être avec lui dans la gloire. En attendant, on est dans un monde, puis il faut s'élever au-dessus de ce monde-là en cherchant... à élever nos pensées à des pensées qui sont dignes, qui sont honorables, qui méritent l'approbation et qui vont nous faire marcher avec sagesse dans le siècle présent. Puis on pourrait faire le parallèle avec le christianisme ici. Dieu est important. Dieu est le centre de tout. On n'est pas en train d'évoluer, on a été créé. Hein? Puis il y a des valeurs et des morales absolues. Il y a des choses qui sont vraiment mal, puis il y a des choses qui sont vraiment bien. Alors que le monde dit qu'il n'y en a pas, moi, je pense qu'il y en a, puis en plus, je vais avoir à rendre compte de ces choses-là. Puis Puis de dire, sais-tu quoi? Peut-être que je m'appuie beaucoup sur la technologie, hein? Parce que dans Ecclésiastes 7, c'est écrit que quand on a de l'argent, on est à l'abri de bien des malheurs. Mais qu'on a de la sagesse, ce qu'on a de plus, c'est que la sagesse, comparativement à l'argent, l'argent nous donne un toit, mais la sagesse fait vivre ceux qui sont sous le toit. Hein? Et donc, peut-être que, dans le fond, on fait confiance beaucoup à notre monde moderne, à toutes les solutions qu'on peut trouver pour sortir du pétrin, mais peut-être qu'on a besoin de fermer la switch, fermer les yeux, aller dans les lieux célestes, puis chercher la réponse en haut, pas juste en bas. Puis il y a des gens de foi qui croient qu'ils vont être récompensés quand ils vont s'approcher de Dieu, qui commencent déjà à saliver en ouvrant leur Bible, parce que je sais que Dieu va me parler. Je sais qu'il va me donner une réponse qui est plus élevée que ce qu'on retrouve en bas. Amen. Fait que Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour ce challenge, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de ne pas juste vivre en bas, mais de chercher en haut. Comme mon chien, Seigneur Dieu, qui salive quand il sait que je vais lui donner une récompense. Bien, on peut déjà se réjouir que si on choisit de se tourner vers toi, tu vas récompenser ceux qui te cherchent, s'ils le croient, s'ils croient que tu vas les rencontrer. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui se sont déplacés. Et comme je ne visais personne pour le mensonge, je veux que vous soyez libres. Prenez ce qui va dedans ça, mais l'idée, c'était qu'on prenne bien. Hein? Il n'y avait pas de compte à régler, comme qu'on pourrait dire. Mais en même temps, je connais mon Dieu. Il peut utiliser toute la parole pour faire qu'est-ce qu'il veut dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.